commentaire d'Hélène Gravel.
Et elle tenait à réagir d'ailleurs là-dessus en commençant ce matin. Hélène dit, je pense qu'à Montréal, ils vont peut-être faire des gains.
Ben, c'est ce que je pense, oui. Bonjour Steve.
Bonjour Hélène Gravel.
Ça va bien.
C'est un grand plaisir de te retrouver en cette formule estivale.
C'est réciproque.
Oui.
Oui, en fait, parce que faut pas l'oublier, sur l'île de Montréal, il y avait deux clans, les souverainistes et les fédéralistes. Et à ce moment-là, comme le sondeur le disait, il y avait uniquement le Parti québécois puis le Parti libéral. Maintenant, les gens qui veulent opter pour un parti fédéraliste, mais qui en même temps sont soit tannés du gouvernement libéral ou veulent un changement, ben vont voter allègrement pour la CAQ. Et je ne serais pas du tout surprise, moi, qu'il y a des comtés qu'on appelait autrefois Château-Fort libéral qui passent à la CAQ pour ces raisons-là.
Moi, ce qui m'étonnerait, mais parfait, c'est toi l'analyste, c'est ça qui est intéressant, c'est on sent pas qu'il pogne, tu sais, que ça marche avec les anglophones encore.
Ben, en fait, c'est pas tant que... À chaque sondage, on voit que sur l'île de Montréal, la CAQ gagne du terrain, même auprès de cet électorat anglophone-là qui est traditionnellement attaché au Parti libéral. Alors, un peu comme le sondeur le disait, ce qui fait en sorte que la crédibilité de la CAQ augmente, c'est pas un feu de paille parce que son taux de notoriété ou d'appui n'est pas devenu... Oui, absolument. Ouais, ouais. Alors, c'est graine à graine, semaine après semaine, sondage après sondage, qu'il y en a un petit peu plus. Et ça s'avère la même chose sur l'île de Montréal. Et je pense que tu sais, peu importe les sondages, c'est une fois dans l'urne que tout ça va se passer. Puis souvent, les gens vont se dire « Oh, ça me tente pas, moi, d'être dans l'opposition, alors je vais voter pour le parti qui risque d'être au pouvoir. » Puis manifestement, quand on regarde ça, le prochain gouvernement, semble non seulement être formé de la CAQ, mais ça risque d'être un gouvernement majoritaire.
On parle ce matin de Paul Gérin-Lajoie, un des grands qui s'est éteint à l'âge de 98 ans.
Puis une journée après la fête nationale, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est un grand Québécois. C'est le dernier maître d'œuvre de la Révolution tranquille. Puis moi, ça me touche personnellement parce qu'il y a tellement eu des avancées durant les années 60, et notamment grâce à lui. Paul Gérin-Lajoie, d'abord, il s'est présenté deux fois en politique, il a été battu deux fois, puis c'était la troisième fois dans Vaudreuil-Soulanges en 1960 qu'il a été élu. Il a fait tellement de grandes choses pour le Québec en termes de structure. D'une part, c'est lui qui a donné... qui a mis de l'avant la gratuité scolaire pour tout le monde, qui a instauré le réseau des écoles secondaires. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Québécois étaient instruits par le clergé. Et une chose que le clergé ne voulait surtout pas, c'est que les gens développent leur esprit critique. Pose pas de questions. C'est ainsi que ça fonctionne. Comme on le voit encore malheureusement aujourd'hui dans certaines religions.
Et qui contrôle l'éducation, contrôle une partie de la pensée,
Mais c'est pour ça que je parle d'esprit critique. C'est qu'à un moment donné, c'est un peu comme un jeune qui est éduqué par ses parents jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain âge, avant l'arrivée de la maturité. Tout ce que tes parents vont te dire, ben c'est un peu, tu prends ça comme du cash. Puis là, à un moment donné, avec l'adolescence, tu commences à te poser des questions.
Et même c'est pas avant, nécessairement Hélène, facile. Rappelle-toi l'apport extérieur. Tu as eu des enfants, le jour où ils entrent à l'école primaire. Là, c'est le jour où il commence à arriver des informations, des sources externes. Puis mais c'est très sain dans le développement d'un être humain de pas avoir juste comme...
Toute
ligne de pensée de départ.
Quand l'éducation que tu reçois de tes parents, tu as deux choix. Soit tu le mets de côté ou tu adhères. Mm-hmm. Puis la raison pourquoi tu le mets de côté, c'est peut-être parce que des informations qui te viennent de la société t'apparaissent meilleures. Mais dans ce cas-ci, lui, ce qu'il a pu donner aux Québécois et Québécoises, puis je parle de Québécoises en particulier parce que ça aussi, il y a eu une impulsion de la formation chez la femme particulièrement. Comme tout ce qui a pu se passer à cette époque-là, ça a donné des ailes à la femme. Mais lui, ce qu'il a pu donner aux Québécois, c'est une fierté. Parce qu'à partir du moment où les Québécois se sont davantage informés, ils ont eu aussi une voix beaucoup plus grande en termes internationaux. Puis lui, c'est ce qu'il a fait. C'est qu'il a été 9 ans en politique, puis par la suite, il est allé travailler sur la scène internationale. Et il a donné une voix au Québec, une image au Québec qu'on n'avait pas du tout. Auparavant, on était la province pauvre du Canada, puis les gens ne parlent pas pareil comme ailleurs. C'était ça l'image que les Québécois avaient. Il ne faut pas l'oublier. Alors, s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur la fierté québécoise, c'est bien Paul Gérin-Lajoie. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé un héritage, la Fondation, qui vient en aide justement aux enfants défavorisés à travers le monde, mais aussi la dictée PGL, qui a une renommée internationale maintenant, et dont les fonds, justement, vont pour aider les jeunes en éducation. Alors, c'est un homme remarquable qu'on a perdu, un grand, grand, grand Québécois qui a donné un tout autre sens au terme « je suis fier d'être Québécois ».
Et j'ai eu cette pensée, t'es forcé d'admettre quand tu regardes ça, les commissions scolaires, les polyvalentes, les cégeps. On va aller même à l'université. son legs a été fantastique, mais j'ai aussi eu cette pensée, la meilleure façon de lui rendre hommage ne serait-elle pas de réformer la plupart de ces choses-là?
Absolument.
Parce qu'elles étaient des réponses à quelque chose qui n'avait pas de bon sens, et elles étaient toutes la bonne réponse à l'époque par rapport à ce qui avait été connu, comme tu mentionnais, pour la religion. Mais tu sais, ça fait 50, 60, 70 ans.
Puis même à l'époque, il y a des choses qui ont été mises de côté, qui n'auraient peut-être pas dû être mises de côté. Je fais juste parler des humanités au collège classique à ce moment-là, où tu avais vraiment une culture générale qui était très, très vaste. Mm-hmm. On a mis ça de côté au profit d'autres choses. Ça va. Tu sais, je pense que la société était rendue là. Mais aujourd'hui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, c'est de continuer à viser l'excellence. Et l'excellence des années 60 n'est manifestement pas celle qu'on recherche en 2018.
Mais lui n'avait pas dit que c'était la fin, de toute façon. Tu sais, c'était, écoute,
c'était
un pas par en avant.
C'était une impulsion. Mais ça prenait du courage pour le donner. Puis, tu sais, le gars, c'était un avocat quand même réputé. Il s'est présenté deux fois en politique et c'était un homme de mission. Lui, il n'y allait pas là pour se faire voir. Il allait là parce qu'il avait une vision de l'éducation du Québec. Il a eu le courage de le faire et j'ai regardé certains reportages de l'époque. Il a été contesté particulièrement par le clergé parce qu'il leur enlevait une forme de mainmise sur les Québécois.
On sortait de la grande noirceur et il a fait partie de cette immense révolution.
Absolument.
Merci beaucoup d'être passé, Hélène, ce matin.
Merci. À
grand
demain.
Plaisir. On se retrouve demain.